j'ai choisi un livre japonais en l'honneur de Carlos Ghosn.
Ouais.
Non, je déconne. Je l'ai choisi parce qu'il était écrit sur la couverture que l'auteur était la Simone de Beauvoir des lettres japonaises. Le livre s'appelle Les Dames de Kimoto. L'auteur s'appelle Sawako Ariyoshi. Le livre s'ouvre sur une grand-mère, Toyono, avec sa petite fille qu'elle a élevée, qu'elle a préparée pour être la meilleure épouse possible. Et à la fin du livre, Anna, la petite fille en question, est elle-même devenue grand-mère et veuve, et elle évalue son parcours. L'auteur écrit... Penchée sur son passé, Anna n'avait pas l'audace d'évaluer la part qu'elle avait prise au succès de son mari. Elle s'estimait simplement heureuse de l'avoir eu pour époux. Et sans doute avoir été amoureuse de son beau-frère, moins ambitieux dans le sens plus plat ou convenu du terme, mais plus perspicace, plus fin, et qui comme elle lit des livres que son mari. Sans doute amoureuse, parce que ces choses-là ne sont ni dites par l'écrivaine, ni même seulement pensées de la sorte par Anna. Anna, elle, s'est juste appliquée à être la femme modèle dans la société japonaise de la fin du 19e siècle. Et où sont les femmes dans un système de famille patrilinéaire? Oui, c'est un mot que j'ai appris avec ce livre, j'en suis ravie. La famille patrilinéaire est un système de filiation dans lequel chacun relève du lignage du père. Ça signifie que la transmission par héritage de la propriété des noms de famille et des titres passe par le lignage exclusivement masculin. Bon, en gros, c'est au Japon, mais c'est chez nous, c'est chez tout le monde pendant très longtemps. Coucou Simone. Alors, je reformule, c'est comment être une femme? Alors, puisque où sont les femmes maintenant, on sait, c'est pas devant, pas à côté, c'est derrière. Assez loin, somme toute, quasiment hors cadre. Alors, c'est par exemple se concentrer sur son kimono à Anna, aux manches parfois si longues qu'elles peuvent aller jusqu'au sol, parce que savoir endosser ce vêtement fait partie de la bonne éducation d'une femme. Choisir avec grâce son hobi, qui est la ceinture de tissu plus ou moins large, qui est nouée avec suffisamment de raffinement pour maintenir en place le kimono. Enfin, sérieusement, Juliette, la vie d'une femme résumée à ce point de détail, c'est que, voyez-vous, entrer dans ce livre équivaut à rentrer dans un tableau impressionniste. Même mieux, c'est être avec le peintre dès les premiers coups de pinceau et donc forcément ne pas comprendre où on va au début. Et on reste néanmoins. Pourquoi? Mais ça, c'est le fin sortilège de ce roman. On accepte de n'avoir d'abord qu'une vue de détail, sans saisir le motif qui tarde à venir, mais qui vient. Et quand il vient, le motif, alors on est comme ébloui, comme la première fois que l'on fait face au tableau de Monet, impression, virgule, soleil levant. Vous savez, cette vue du Havre, ce n'est pas paysage qu'il l'a appelé, mais impression. C'est comme ça qu'il l'a intitulé. Alors le kimono, ce détail, prend toute son ampleur. Celui impeccable auquel se raccroche Anna lorsque son mariage ne fait pas que l'amuser. Celui que sa fille Fumio refuse de porter, préférant la robe des actrices du muet américain. C'est le début de la mondialisation, le hobby se barre comme le corset s'est tiré. Celui qu'Anako, la petite fille d'Anna, elle réclamera, parce qu'elle cherche le lien avec le monde ancien de sa grand-mère. Un kimono superbe en crêpe de soie rose aux pivoines blanches, mais qui doit être échangé après-guerre contre du blé. Et Anako remarquera, il ne lui resterait plus rien en dehors de la trace dans sa mémoire des moments passés avec sa grand-mère. Alors toi, lecteur, tu repasses dans ta mémoire intime ce qui te vient de ta grand-mère, sans forcément passer par ta mère. Quels objets disparus aujourd'hui incarnent ce lien? Tu réalises comment par petites touches quasi impressionnistes, les femmes sont rentrées dans le cadre, dans le paysage, même si au départ ce n'était qu'une vague impression. Merci, bisous, merci.